Voici votre chronique immobilière avec des conseils professionnels pour vendre ou acheter une propriété rapidement et sans tracas. Avec Éric Normandeau, agent immobilier chez PG Direct Realty, membre du réseau PropertyGuys.com.
Bonjour Éric.
Bonjour.
On va parler ce matin comment bien préparer son offre d'achat. Sujet qu'on n'a pas abordé souvent non plus.
C'est ça. C'est un peu un sujet pour des acheteurs. Donc, aujourd'hui, on va jaser d'un moment qui est excitant, mais qui peut être aussi stressant. La préparation de l'offre d'achat comme telle, c'est quand même une étape cruciale. Là. C'est quand c'est celle-là qui va jouer entre c'est ma future maison ou elle peut m'avoir passé sous le nez. Là, parce qu'il y a beaucoup de choses puis d'éléments à regarder. Contrairement à ce qu'on pense, une offre d'achat, c'est pas juste une question d'argent. T'sais, des fois, les gens vont me dire bon, « OK, je vais faire une offre sur la maison puis je vais y donner tant. » Oui, mais il y a d'autres choses à regarder. Donc, c'est un ensemble de détails qui vont faire toute la différence. Premièrement, le prix. C'est pas juste le montant offert. C'est souvent le montant offert, ça va être évident, là, ou ça paraît évident au cœur de la discussion, c'est sûr. C'est la première affaire qu'on va dire. Mais avant de mettre un chiffre sur papier, il faut savoir ce que la maison vaut réellement ou à peu près. Là, je dis tout le temps que c'est un approximatif. Là. Mm-hmm. T'sais, analyser le marché, comparer les propriétés similaires qui ont été vendues, c'est important. T'sais, pas dire ben oh, la maison à côté est à vendre à tel prix, ça fait que moi je vais demander tant. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand on regarde qu'est-ce qui a été vendu pour faire une bonne analyse du marché, depuis combien de temps qu'elle est à vendre, tout ça, ça va permettre de faire une offre qui va être juste puis crédible. Faut être certain de faire une offre qui va pas insulter les vendeurs non plus.
Réaliste.
Pas apparaître, que ça soit réaliste puis que ça soit, que ça a de l'air sérieux. Des fois, ça peut avoir de l'air pas sérieux puis les gens vont juste refuser votre offre. Ben, faut que tu fasses un offre qui est crédible puis qui va être plus difficile à rejeter de par le vendeur. Fait qu'il faut faire attention dans un marché comme le nôtre au nord-est du Nouveau-Brunswick. Tu sais, chaque maison est unique, chaque transaction est différente. Le bon prix, c'est pas juste une moyenne, c'est vraiment une stratégie qui est adaptée au secteur que vous êtes dedans. Et j'ai souvent des gens qui arrivent d'extérieur, qui arrivent de grandes villes du Québec ou d'autres provinces, puis qui vont, tu sais, ils vont comme faire leur stratégie pareil qu'ils l'auraient faite à Montréal, mettons. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est vraiment différent dans chaque région. C'est pour ça que c'est important d'avoir quelqu'un qui connaît bien le marché pour vous aider. Les dates, c'est un détail qui compte beaucoup. Les deux dates à bien réfléchir, c'est la date de prise de possession, qui est plutôt la date de clôture qu'on va appeler. Mm-hmm. Souvent, l'anglais, c'est le closing date là, qu'on appelle. C'est le moment où vous allez prendre possession de la maison. Puis après ça, les dates de signature chez l'avocat notaire. Tu sais, quand est-ce que je vais aller signer, comment ça fonctionne, etc.
Est-ce que ça, normalement, la date de signature chez l'avocat vient avant la prise de possession?
Oui, habituellement, ça va être juste avant, là, quelques jours avant. Des fois, c'est la journée même. Là. Ça dépend de comment ils vont céduler ça. Mais habituellement, ils vont signer tous les papiers quelques jours avant, puis après ça, ben, la journée de la date de clôture, ben, les acheteurs vont faire une visite pré-clôture qu'on appelle, mm-hmm. et ensuite, on va procéder avec l'enregistrement de la maison, avec les nouveaux propriétaires et tout ça. C'est comme ça que les avocats notaires vont céduler ça en conséquence. Ça va tout se passer pas mal dans les mêmes 2-3 jours. Ouais. Fait que, tu sais, c'est important. Là. Ça paraît pas, là, mais ce petit calendrier-là, là, ça peut peser beaucoup dans la balance. Tu sais, un vendeur peut vouloir déménager vite, puis il pourrait accepter un prix un peu plus bas, tandis qu'un autre va préférer un délai plus long pour se reloger un peu plus tranquillement. Fait que ça, c'est ces dates-là peuvent jouer dans la balance, puis ça peut jouer dans le prix aussi, dépendant dans la négociation.
Oui, parce que si on prend possession plus tard, cette personne-là n'aura pas d'autres logements à payer, exemple.
C'est ça. Puis le vendeur, lui, ben, si ça fait son affaire, c'est correct, mais ça peut encourir des frais supplémentaires pour le vendeur parce que lui, il faut qu'il garde la maison pendant tout ce temps-là pour cette personne-là. La maison est vendue, ça fait qu'ils vont peut-être lui offrir un petit peu plus pour qu'il lui garde la maison plus longtemps. Okay. Fait que c'est vraiment un point important de la négociation, c'est les dates de clôture, les dates de prise de possession. Et aussi, il y a la date la satisfaction des conditions qu'on pourrait parler aussi, mais ça aussi, c'est important à faire toutes les conditions.
Donc, qu'est-ce que d'autre important, Éric?
Comment, excuse?
Qu'est-ce que d'autre important?
D'autre importance, c'est les inclusions et les exclusions. Fait que c'est vraiment souvent sous-estimé ce qui vient avec la maison. Les électroménagers, les rideaux, le spa, la table de poule dans la cave, tout ça, ça doit être écrit puis précisé noir sur blanc sur le contrat d'achat. Ça évite bien des malentendus, puis des fois aussi, ça peut même servir d'argument de négociation. Tu sais, qu'est-ce qui reste avec la maison? C'est sûr qu'il y a des choses qui ont moins de valeur que d'autres. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Faut faire attention de bien écrire. Tu sais, je dis toujours aux gens, là, les inclusions, des fois, on dit que, tu sais, d'habitude, tu vends une maison, tout ce qui est attaché après la maison, ça vient avec.
Comme les luminaires, par exemple.
Comme les luminaires, comme même le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle, c'était encastré. Tu sais, des fois, les gens vont dire, ah, ben, t'as oublié d'écrire le lave-vaisselle. Ben, le lave-vaisselle, techniquement, il est encastré. On peut l'écrire, faire sûr que la personne ne change pas le lave-vaisselle avant fermeture.
Mais oui, c'est vrai.
Je dis tout le temps aux gens que si tu pourrais prendre la maison, pas le vent en l'air, puis la shaker, comme on dit, là, ben, tout ce qui tombe, là, le vendeur, il peut s'en aller avec.
OK.
C'est ça. C'est une
image, là, oui.
Pour expliquer ça. C'est, même que je l'explique aux gens, ben, après ça, ils pensent à ça. Ben ouais, t'as raison, c'est ça. Ben, c'est comme ça. Fait que tout ce qui est attaché après la maison, ça devrait rester là, à moins que le vendeur veut le changer. Si c'est un luminaire qui te tient à cœur, ben garde, change-le, puis on va écrire ça sur le contrat, puis que tout soit clair pour tout le monde.
Ça peut être la même chose aussi pour des choses qui sont dispendieuses, comme les miroirs.
Oui, c'est
miroirs
ça,
de salle de bain, là, quelqu'un part avec, c'est... C'est du trouble.
Oui, ben c'est ça. C'est si, à moins qu'il est vraiment comme collé là, mais habituellement, c'est sur un crochet. Fait que c'est drôle à dire, mais tu peux t'en aller avec le miroir, mais tu peux pas t'en aller avec le crochet parce qu'il est attaché après la maison.
Oh.
C'est niaiseux de même. Okay. C'est comme une télévision puis un rack à TV sur le mur. Faut que tu laisses le rack là, mais tu peux amener ta TV, par exemple.
OK, c'est intéressant.
Fait que c'est des petits détails, mais il faut que ça soit bien écrit puis bien écrit, bien fait sur le contrat. Donc, les conditions aussi, il faut regarder ça, le financement, obtenir une approbation officielle de la banque. Faut que tu fais ça normalement à l'intérieur de 2 semaines. L'inspection, encore une fois, qui est très importante, on en parle souvent pour éviter les mauvaises surprises. Y a-t-il une condition de la vente d'une autre maison? Est-ce que vous devez vendre avant d'acheter? Ben ça, c'est une condition qui peut être écrite sur une offre d'achat. Donc, c'est des clauses qui sont pas là pour compliquer les choses nécessairement, mais c'est pour sécuriser la transaction et pour l'acheteur et pour le vendeur. Puis quand c'est bien rédigé sur le contrat d'achat, ça peut éviter bien des maux de tête.
Éric?
Donc aussi, il y a le...
Oui, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent, qui sont pas préapprouvés et qui font perdre le temps à d'autres gens?
Ça peut arriver. Moi, je vais souvent le mentionner, le demander et le proposer de se faire pré-approuver avant de commencer à visiter des maisons. C'est très important d'avoir une pré-approbation. Une pré-approbation, souvent, ça va valoir juste le papier qui s'est écrit dessus parce que ça reste une pré-approbation. Mais ça, au moins, ça nous donne une bonne idée que cette personne-là est qualifiée pour acheter une maison.
Et sérieuse.
Et piqué sérieux, c'est ça. Fait qu'on ne veut pas perdre le temps de personne. T'sais, ça peut perdre le temps. C'est pour l'acheteur aussi, là, je veux dire, c'est un peu.
Hey, on a vendu, mais finalement, il ne passe pas à la banque. C'est frustrant pour le vendeur.
Ben oui, c'est ça. Fait que c'est important de tout déterminer ça, tout bien écrire ça, puis tout prendre les informations en conséquence. Il y a aussi le dépôt. Il y a toujours un petit détail à régler. On met tout ça par écrit, encore une fois, le montant du dépôt, ça peut varier beaucoup. L'offre est ensuite remise au vendeur. Souvent, avec un petit dépôt éventuel, ça peut démontrer un peu plus de sérieux, dépendant de la maison et de la transaction. À ce moment-là, la négociation est officielle, puis commence avec l'acceptation, la contre-offre, ou parfois aussi, il va y avoir un ratio de 24 heures, là, un silence radio de 24 heures là, en attendant, puis ça peut être stressant, ben là, il va-tu me répondre, mais d'habitude, on donne aux gens 24 heures pour répondre à l'offre d'achat. Mais quand c'est bien préparé, quand les arguments sont clairs, puis bien réalistes, puis vous avez beaucoup plus de chances de que votre offre soit retenue et approuvée par les vendeurs.
J'ai une autre question. Oui. Le dépôt, là, est-ce qu'il y a un dépôt minimum qui est demandé, par exemple, par la province de Nouveau-Brunswick?
Il n'y a pas de, pas de règlement, il n'y a, pas de, il y a pas, même pas d'obligation de donner un dépôt avec une offre d'achat. C'est vraiment, le, il n'y a pas un, il y a, une, il y a une mise de fonds, là, ça c'est la partie financière.
OK, ça c'est la banque qui le demande.
C'est la banque qui va demander une mise de fonds. Mais le dépôt, c'est vraiment la deal quand tu fais une transaction immobilière, il y a un dépôt à donner. Habituellement, dans le passé, là, les gens faisaient une offre d'achat, puis ils amenaient un chèque, puis ils donnaient un dépôt en même temps que l'offre d'achat. Maintenant, on peut plus vraiment faire ça avec la façon que ça fonctionne avec les banques et tout ça. On va faire une offre d'achat. On va dire, regarde, une fois que, on va mettre des dates. Fait qu'une fois que toutes les transactions, les conditions sont remplies, là, on va donner le dépôt pour finaliser la transaction. Puis ce dépôt-là, ça peut être 1 000$, ça peut être 5 000$, ça peut être 5% du prix de vente, ça peut être bien des affaires. Mais en général, c'est vraiment différent dépendant de la transaction puis du montant de la vente. C'est adapté à la transaction, je pourrais dire. Fait que c'est ça, une offre d'achat, bien important pour éviter les casse-têtes, bien préparer, c'est vraiment les prix, les dates, les inclusions, les conditions. Faites vraiment vos devoirs là-dessus, puis c'est sûr qu'un bon agent immobilier peut vous aider avec ça.
Et je pense
mais
que...
Meilleure offre, c'est pas toujours la plus haute, oui.
Je pense que ce matin, on a une première, à moins que je me trompe, c'est pas une maison qui est à vendre, c'est un terrain, on a déjà eu des terrains avant?
Oui, on a déjà fait ça. Ça fait longtemps qu'on fait ça. Là. Je pense que j'ai déjà fait une coupe de terrain, tout ça. Mais je voulais présenter ce terrain-là à Caracat parce que c'est quand même une denrée rare, là, dernièrement, là, des terrains sur le bord de l'eau. On n'en a plus beaucoup. Il y en a beaucoup qui se sont vendus, que ce soit sur le bord de la mer, sur le bord de la rivière, etc. Ce terrain-là en particulier est à Caracat. C'est vraiment un emplacement de rêve. Là. C'est situé directement à Caracat. Dans le bout du centre d'achat, là, place Saint-Pierre. C'est vraiment un petit coin tranquille, juste sur le bord de la piste cyclable et sur le bord de la mer. Il y a près de 300 pieds de façade sur la mer. À vrai dire, c'est un terrain, mais ça pourrait être deux terrains. Fait que il y a la possibilité de ce terrain-là soit divisé en deux. Parce qu'il est tellement grand, avec 1,75 acres, c'est presque deux acres de terre. Sur le bord de l'eau, bien boisé. Puis je vous dirais aussi, tu sais, les gens vont me demander des fois, c'est-tu une zone inondable ou ben non, c'est-tu un peu marécageux ou quelque chose comme ça. C'est vraiment, en regardant les arbres qu'il y a sur ce terrain-là, là, la verdure, etc., tu vois que c'est quand même, puis je l'ai marché le terrain, là, c'est pas mou, comme on dirait. Là. C'est comme quasiment prêt à bâtir, tu n'aurais pas beaucoup de topsoil à mettre pour faire une construction. Puis il est divisable en deux, ça fait que tu pourrais le diviser en deux pour avoir deux terrains.
On pourrait l'acheter puis vendre la moitié.
On va l'acheter puis vendre la moitié ou l'acheter à deux personnes puis chacun se bâtir d'un bord puis l'autre bord. Fait que ça peut se faire de cette façon-là aussi. Des fois, il y a des familles qui font ça. On va acheter le terrain à deux puis moi, je bâtis ma maison d'un bord puis toi, tu bâtis ta maison de l'autre bord puis on est des voisins puis la famille en même temps. Proche de la piste cyclable, littéralement sur la piste cyclable, là, tu peux embarquer sur la piste cyclable et te promener à la grandeur de la péninsule, comme on sait. On a une belle piste cyclable dans ce bout-ci. Puis, le bord de l'eau à Caracat, c'est magnifique. Je veux dire, les couchers de soleil, là, c'est à couper le souffle dans ce coin-là. Vous allez pouvoir aussi avoir accès à la mer. C'est situé un petit peu sur un cap, comme on dirait. Là, je te dirais, c'était bien 10-15 pieds de haut. Mais il y a quand même un accès que tu peux descendre puis aller à la mer directement avec les kayaks, etc. Là. Belle propriété, Caracat, si vous allez sur le site de propertyguys.com, 60718, aussi disponible sur le site de realtor.ca avec le numéro NB 128-984.
Et on peut vous rejoindre au 1-506-720-1255.
C'est bien ça.
Éric Normandeau, merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Vous êtes fatigué d'avoir à payer de lourdes commissions pour la vente d'une propriété? Eh bien, ne cherchez pas plus loin. Grâce à la plateforme innovante de PropertyGuys.com, vous pouvez vendre votre propriété rapidement et sans tracas. Obtenez aussi l'option de vous procurer des services immobiliers complets et d'une visibilité sur Realtor.ca, offert par PG Direct Realty. Prenez le contrôle de la vente de votre maison. PropertyGuys.com.